Donc, merci de m'accueillir. Bon, j'ai compris que j'intervenais entre du bon usage du pouvoir que Wendy Baquet a traité et le suivant qui est Bruno Sinotti et qui va traiter de l'éternelle tentation du pouvoir. Donc, moi je me situe un peu au milieu puisque je vais vous parler en fait de ce qui se passe sur le terrain politique de la petite cité, mais quand même politique où vivent les citoyens quotidiennement. Alors lorsque j'ai accepté de venir échanger avec vous sur le thème qui nous intéresse ici, le pouvoir et le service, je me suis demandé vraiment si j'étais l'interlocuteur idoine en tant qu'élu d'une petite commune pour vous parler du sujet. Bon, le pouvoir et le service, le pouvoir politique, il est partout, il est à toutes les strates, comme vous le savez, et l'intéressant, il me semble, dans l'échange que l'on va avoir, c'est que est-ce que être élu en ville est représentatif de l'exercice du pouvoir en tant que fournisseur de services et en particulier de services publics. Bon, heureusement, ceux qui m'ont accueilli m'ont persuadé que j'étais le bon interlocuteur. Donc finalement, et tout complexe balayé, je vous suis reconnaissant de me laisser vous faire part de ce que je vis au quotidien, de ce que nous vivons dans une petite commune, nous les élus, dans le contexte des services que nous sommes tenus d'assurer, que nous assumons et que, en tout cas à Hausseville, nous souhaitons prodiguer au sein de la commune. À la réflexion aussi m'est apparue l'importance du facteur de proximité sur lequel je reviendrai tout à l'heure dans le rapport pouvoir-service, mais aussi l'évidence que toujours des petites communes, tout commence ou tout finit suivant qu'on considère la pyramide. Finalement, au niveau communal, en matière de relations entre l'État et les citoyens. Je vais faire une courte présentation d'Hausseville, que vous connaissez certains ou tous pour la plupart, mais qui est nécessaire pour comprendre pourquoi la notion de service rendu dépend beaucoup de facteurs, de beaucoup de facteurs, en particulier de la dimension de la commune, je l'ai dit, de la prise de responsabilité collégiale, qui est un conseil municipal, sur les orientations politique que la volonté de la gouvernance affiche, de la faculté à se mettre à disposition des citoyens, c'est-à-dire donner de son temps, de la disponibilité, et aussi des moyens mis à disposition dans l'organisation des services que l'on veut rendre. Parce que les moyens, ça compte, et j'y reviendrai, les moyens, ils sont plutôt, de la part en tout cas de l'État, en baisse. La France comptait, sans doute comme vous le savez, 36 767 communes en 2013, un peu moins maintenant parce qu'il y a eu des regroupements, et sur ce chiffre, 32 000 communes ont moins de 2 000 habitants. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir ou si on aura le temps d'en discuter. Effectivement, il y a un réel problème, ou en tout cas des questions à se poser sur comment cette répartition sur le territoire des communes de moins de 2 000 habitants peuvent continuer à servir les citoyens, au moins dans une tranche de services que je pense nécessaires. Alors Hausseville est une commune de près de 5 000 habitants, en forte croissance, puisque nous comptons aux alentours de 2025-2030 être 7 000. Située en première couronne de l'agglomération toulousaine, est classée ville intense nord au sein du territoire de l'intercommunalité qu'est le Sicoval, qui comprend 36 communes. Heureusement qu'il y a des élus du Sicoval, des anciens élus du Sicoval dans la salle pour me corriger. 36 communes. Elle a connu ces dernières années une croissance forte de population qui s'est implantée de l'autre côté de la 113, qui partage certains villages ici du sud-est de Toulouse, comme Castanet, et ce déploiement s'est fait vers le canal. Je dis ça parce que, bon, Hausseville, qui était un petit village, hein, qui est une ville à implantation, je dirais, pavillonnaire, pavillonnaire, très pavillonnaire, s'est développé donc sur un autre mode d'urbanisation, sur lequel je reviendrai, qui est une urbanisation qui a accueilli une mixité de la population et une densité de population qui n'était pas du tout dans la culture de ce ville autrefois, ce qui a provoqué et provoque encore des réactions, je dirais, culturelles de l'habiter confortablement et de la consommation d'espace, qui fait que, eh bien, il y a tout un apprentissage du vivre ensemble avec d'une manière différente qui est obligée de se faire et qui est très difficile à expliquer. C'est une commune aussi qui a quelques caractéristiques exceptionnelles, c'est-à-dire qu'elle n'est construite qu'à 38% de son territoire, à 20 minutes du Capitole, et c'est une population qui est quand même une moyenne de revenus assez élevée, tout au moins encore. Bon, je vous dis cela parce que, comme vous le devinez, passer de la vie de village résidentiel à un statut de ville intense se traduit par des ressentis, une culture du voisinage urbain qui est difficile à accepter dans les premiers temps. Je vous dis ceci parce que la notion de service et d'adaptation de service aussi intervient là-dedans, dans cet aspect. C'est un changement assez brutal qui interroge la gouvernance communale, bien entendu, particulièrement en matière d'urbanisme, surtout quand on prend acte, comme je vous l'ai dit, que c'est une commune qui est peu habitée et qui a beaucoup d'espaces non construits. Nous aurons l'occasion de reparler de ce phénomène de rejet de densification urbaine, qui n'est d'ailleurs pas spécifique à Hausseville, mais qui est intéressant aussi à considérer quand, par rapport à Castanet, par exemple, où on construit beaucoup et où les réactions de cohabitation de population n'est pas la même. En préparant donc mon intervention de ce matin, j'ai longtemps cherché l'angle sous lequel je pouvais aborder cette question du pouvoir et de la relation pouvoir-service. Pourquoi ? Parce que d'une part, la notion de service est très large, et surtout, particulièrement dans le domaine public, hein, et surtout parce que le pouvoir de l'administration de la res publica, c'est-à-dire de la chose publique, est très dilué dans les strates et les organes ou les collectivités déléguées par l'État pour en assurer l'exercice. On peut dire, je crois, en matière de service aux citoyens, et d'une manière générale d'ailleurs, que le rôle de l'État comporte essentiellement, ou en tout cas pour une large part dans ses missions, une obligation de service fondée constitutionnellement pour un grand nombre de ses services sur des valeurs et des lois de solidarité, sur le respect des droits de l'homme et du citoyen, dans un souci de lui donner des conditions de vivre dans la dignité, dans l'égalité, et bien sûr dans la liberté de conscience. Alors qu'est-ce que le pouvoir fait quand on considère, pour être très excessif, le pouvoir à l'Élysée et le pouvoir à la mairie d'Hausseville? J'aurai l'occasion donc de vous en parler tout à l'heure. Alors nous pourrions nous arrêter là en discutant peut-être des questions relatives à la nature de ces services, à leur qualité, à leur efficacité, bref, à la question de savoir s'ils remplissent bien leurs objectifs. Et nous le savons, je l'ai dit, le spectre est grand depuis les services régaliens jusqu'aux compétences des collectivités territoriales et des communes chargées d'assumer ces services. C'est pourquoi, pour rester dans l'esprit du sujet qui nous occupe dans cette université d'été, je propose de convenir d'une sémantique sur la notion de service. Donc je mets de côté les notions régaliennes de l'État et ce qu'on appelle communément les services publics, tels que services des préfectures, services postes, services incendie, organismes délivrant des aides sociales, CAF et compagnie. Voilà. Je vais essayer de rétrécir le spectre de ce qui de ce dont je peux vous parler en tout cas. Je vais essayer de mettre en exergue au sein du bassin de vie qui est une commune la possibilité de mettre la notion de service sur un autre plan que seulement l'institutionnel. Par exemple, se poser la question, est-il possible de garder une forme de rapport personnalisé entre le citoyen et l'élu dans une volonté politique d'un mieux vivre ensemble à travers les services au sein de la commune. Volonté politique de garder une cohésion sociale, une solidarité locale de proximité pour ceux qui en ont le plus besoin. Plus généralement, une animation sociale et culturelle qui permette l'échange et le partage. Eh bien, je pense que c'est ce que l'on peut encore attendre pour quelque temps d'une gouvernance communale, au moins, et même intercommunale, sans lui faire de procès d'intention, mais qui est quand même, qui se révèle un peu plus compliqué dans l'application. Il y a bien sûr, comme je l'ai évoqué, une question d'échelle ou de dimension de bassin de vie, et bien évidemment de facteurs politiques, c'est-à-dire la représentation des élus, et surtout aussi, il faut bien le dire, la personnalité du maire ou du président de l'intercommunalité. Je vais donc essentiellement rester dans un contexte d'expérience de l'élu, comme convenu, avec avec vous, ou avec du moins les organisateurs, c'est-à-dire un contexte de proximité avec les concitoyens. Ce facteur de proximité, et j'y reviendrai, est essentiel dans la mission de service que l'on peut rendre, que peut attendre d'un élu à qui on a délégué le pouvoir d'administration de la commune. Proximité essentielle, dis-je, parce que l'objectif premier du service, c'est de répondre à un besoin. Si ce besoin n'est pas entendu, compris, et parfois ou souvent détecté, dans son urgence ou sa nature, pour des tas de raisons, eh bien, il y a une forme de carence. Alors, bien sûr, il y a des services qui sont dus. La commune est en charge de l'école et une commune se doit de fournir un contexte, des structures qualitatives pour que l'éveil à la culture et au savoir se passe dans de bonnes conditions pour nos enfants. On le voit bien sous cet aspect des choses de la vie partagée en communalité, encore que le mot n'existe pas. La réussite du couple pouvoir-service dépend, chez ceux qui sont en charge de l'administration communale, de nombreux critères. La volonté politique, bien entendu, l'honnêteté, la confiance, la responsabilité, la disponibilité, l'écoute, bref, le respect de l'engagement de celui qui a sollicité le mandat, celui ou ceux. C'est pourquoi aussi, si l'on veut mettre le service comme élément fondateur ou garant de la cohésion sociale, il faut créer des circonstances favorables à sa mise en œuvre. C'est-à-dire être clair dans la vision du périmètre dans lequel on veut écrire les missions de service communaux et ensuite les faire accepter dans les principes et les moyens. C'est là que réside le différentiel qui caractérise pour le moment, et on le voit, l'action du pouvoir communal. On voit que chaque commune a sa façon de traiter, en tout cas les services optionnels, je dirais, qu'il peut choisir. Vous avez des maires qui sont plus sociaux que d'autres, vous avez des maires qui sont plus constructeurs que d'autres. Chacun a sa vision, et je le réévoquerai tout à l'heure, bien entendu, le pouvoir est certes collégial dans un conseil municipal, mais la personnalité du maire, évidemment, bien entendu, est fondamentale. Alors, quel service et pour qui? Lorsqu'une famille ou quelqu'un vient habiter sur la commune, eh bien, une de ses premières préoccupation, c'est de venir à la mairie chercher le livret d'accueil pour avoir l'éventail des services qui y sont fournis. C'est l'expression même du besoin de services du citoyen. Nous avons tous besoin de services, parce que nous avons tous besoin de l'autre, les puissants comme les misérables, comme dirait certains écrivains. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous ne pouvons pas vivre, je dirais, ontologiquement, sans le rapport à l'autre. Et puis, en ce qui nous concerne ici, parce que nous sommes obligés de vivre avec les autres et à côté des autres, dans une proximité d'ailleurs de plus en plus étroite. Je l'ai évoqué, on en reparlera en matière d'urbanisme tout à l'heure. Un enjeu pour la sphère publique est donc pour les élus d'organiser au sein de la commune les services attendus par ses habitants, aussi bien en efficacité qu'en qualité. C'est une question de cohésion sociale, je l'ai dit, et de qualité de vie en commun. Et quotidienne, le premier endroit où l'on va quand on a un problème administratif, de situation familiale, d'emploi, donc un besoin d'aide ou de service, c'est aussi à la mairie et à Hauteville tous les samedis, c'est-à-dire en ce moment, le maire reçoit sur demande les personnes qu'il souhaite pour régler des problèmes personnels qui sont plus difficiles à régler dans le cadre administratif classique. C'est un aspect de lien fort qui réunit encore les citoyens et leurs élus. Sur cette notion de service en relation avec le pouvoir, je propose donc de retenir la sémantique suivante, et service dans le contexte communal, le fait de se mettre à disposition de quelqu'un, soit par obligation réglementaire, soit bénévolement, soit tout simplement par éthique personnelle, ça existe aussi. Comment s'exprime cette notion de service au sein du bassin de vie, c'est-à-dire notion d'activité et de vie des habitants qui tient compte du facteur de proximité des services communs? Elle correspond à tout ce qui facilite la vie de tous les jours. Les anglo-saxons emploient le mot de « facilities » pour les services, et ça correspond assez bien à cet aspect du service. Nous pouvons y mettre ainsi la délivrance des services liés à la compétence de la commune, nous verrons lesquels, et ceux de l'intercommunalité dont la commune est le relais, mais aussi les services ajoutés, souhaités et organisés par la commune, par volonté politique, les services rendus par les associations, très importants, le bénévolat, etc. Ceci pour les très jeunes, les jeunes, les adultes et les aînés. Et ça concerne le domaine très important du service à la personne, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. À travers cet angle de vue, on réalise la dimension de la mission qui est confiée aux élus par la délégation du suffrage. Cette notion de service au sein de la commune, que l'on peut qualifier de public, peut ainsi se comprendre d'abord comme une réponse à un droit, mais aussi en proximité à un besoin spécifique, une attente, une situation d'urgence. Les CCAS, par exemple, servent à ça. Les logements d'urgence servent à ça aussi. Cela implique pour les élus en charge de la gouvernance communale un devoir de disponibilité, d'écoute, mais aussi une volonté d'accepter et de considérer que tous ces services rendus sont l'enjeu, je le répète, non seulement d'une cohésion sociale, mais aussi d'un bien-être et d'un bien-vivre au sein de la commune. On peut donc dire d'une façon générale, en matière de services, que la commune, en tant que collectivité distincte de l'administration de l'État, a pour devoir de prendre en charge les intérêts de la population sur son territoire, en ce qui concerne ses compétences propres, et au sein de l'EPCI, c'est-à-dire ici du Sicoval, en tant que membre actif de celle-ci et en participant à la gouvernance aussi du Sicoval. Ce qui est important, et c'est là qu'intervient le pouvoir de la municipalité, c'est que sa capacité à intervenir dans la vie quotidienne publique lui donne une certaine autonomie de décision et de liberté dans les orientations qu'elle souhaite donner politiquement dans ses domaines de compétences, mais aussi selon ses moyens. C'est assurément cette marge de manœuvre qui permet de renforcer, plus ou moins, la relation pouvoir-service à nos concitoyens. Cela permet aussi d'adapter les services en fonction du profil de la commune, puisque j'ai évoqué que nous étions une commune assez riche, il y a des communes qui sont pauvres, il y a des communes qui ont des profils différents suivant la caractéristique de population qui y habite. Il y a la pyramide des âges, le taux de croissance de population qui intervient, l'accompagnement de l'évolution de la commune, mais aussi la demande des habitants, les équipements, etc., etc. Alors comment sont organisés et délivrés ces services dans la réalité des choses? Parlons d'abord services et organisations territoriales. Alors c'est un peu rébarbatif, mais enfin c'est la réalité de la vie politique et de l'organisation territoriale. Les services et les organisations territoriales, eh bien en France, c'est un enchevêtrement de compétences pour les services et l'administration, on le sait. À l'origine, l'organisation territoriale de la France connaît une importante complexité qui se traduit par un mélange de compétences, je l'ai dit. En 1980 et 82, il y a eu une volonté de l'État de transférer au profit des collectivités territoriales certaines compétences et les ressources correspondantes. C'était la décentralisation. Cette intention s'est diluée, comme chacun le sait, au fil de la temporalité politique, dans les 5 niveaux responsables des politiques publiques. Les communes, les départements, les régions, l'État, mais aussi l'Union européenne. Et j'ai même pas marqué les régions, maintenant les grosses régions, qui ont, il faut bien le dire, pour le moment, complexifié quand même l'organisation, la répartition des compétences, la redondance des compétences, etc., etc. On peut rajouter les intercommunalités et même les métropoles. On comprend alors pourquoi le besoin de services et son expression à la base soit de moins en moins perceptible par les différents acteurs, même si les idées générales qui conduisent les principes de notre République et de notre démocratie veillent au respect de l'égalité et de la solidarité pour tous les citoyens. Dans le même ordre de constat, en matière d'intercommunalité, c'est-à-dire de forme de coopération de communes, il existe 5 formes à fiscalité propre. Communauté urbaine, communauté de communes, communauté d'agglomération, syndicat d'agglomération, syndicat d'agglomération nouvelle, et puis depuis peu, la métropole. 2 autres encore sans fiscalité propre, syndicat de communes et syndicat mixte. Vous voyez que le pouvoir est très dispersé et difficile à comprendre dans sa capacité à rendre les services attendus. De plus, la légitimité démocratique des EPCI, c'est-à-dire des établissements publics à caractère intercommunal, est un problème sensible, car elle se voit transférer un nombre croissant de compétences au détriment des communes. Enfin, au détriment, on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, dans les communes, les services partent des communes pour être administrés dans les intercommunalités, et j'allais dire coquinement, de plus en plus sans les ressources promises par l'État, qui se désengage de plus en plus. Or, les conseillers communautaires sont élus par des conseillers municipaux, et leur répartition au sein de l'Assemblée du Conseil des communautés est proportionnelle à l'importance des communes. Donc, l'influence des grosses communes et des vice-présidents élus au bureau intercommunal est déterminante dans l'orientation des politiques, des compétences et de leur traduction sur le terrain en matière de services délivrés. Il y a de ce fait une répartition de compétences et donc de services qui évolue au fil du temps et des décisions des politiques publiques. Il y a des compétences de communauté et d'agglomération qui sont par nature communautaires, comme les schémas de cohérence et d'orientation en matière d'urbanisme, les transports, etc. A l'inverse, les compétences peuvent être partagées entre la communauté et les communes. Le principe de subsidiarité se fonde en fait sur l'intérêt communautaire qui détermine le champ d'intervention de la communauté, laissant aux communes ce qui n'est pas reconnu d'intérêt communautaire. Alors c'est un peu abscons, mais ça veut dire par exemple que dans le domaine des services à la personne, j'y reviendrai tout à l'heure, en 2012, il y a eu un transfert des communes vers le Sicoval, et en matière d'animation jeunesse, d'aide de soins à domicile, etc., maintenant ce n'est plus votre commune qui le fait, c'est le Sicoval. Alors ça n'a pas que des aspects négatifs, mais la notion de proximité de la personne qui vient vous aider, que vous reconnaissez tous les matins, c'est quand même très important. Donc on va vers une administration, sans faire de procès d'intention, qui est plus technocratique et organisante dans le sens du mot. Alors quelles sont les compétences communales qui restent ? Lieu de l'administration et de proximité, la commune dispose de compétences encore très diversifiées en matière d'urbanisme. Donc les communes, enfin certaines, ont encore le pouvoir d'aménager, de décider comment elle va aménager son urbanisme. Je dis encore parce que à travers ce qu'on appelle le PLU, c'est-à-dire le plan local d'urbanisme, parce que il y avoir une obligation et un transfert de ce pouvoir d'organiser son urbanisme au sein de la commune vers l'intercommunalité sous forme de PLU intercommunal. Ça veut dire que les maires ne pourront plus faire ce qu'ils veulent, ou les élus, ou en tout cas auront moins de liberté, puisque l'aménagement du territoire face aux problèmes d'aménagement, mais ça c'est une vaste question aussi, ce qui a aussi une certaine logique, se fera au niveau d'un territoire d'une façon plus homogène, plus répartie. Alors ça c'est le côté positif. En revanche, ceux qui détermineront, qui décideront de ce plan local intercommunal, auront un pouvoir de décider sur une commune ce qui doit y être construit ou pas. Bon, ça c'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'une heure ou deux de discussion. Alors, je continue sur les compétences communales. Dans le domaine sanitaire et social, la commune met en œuvre l'action sociale facultative, c'est-à-dire les services qu'elle souhaite politiquement donner à ses citoyens. Au centre communal d'action sociale, gestion des crèches, foyers des personnes âgées, personnes en difficulté, logement d'urgence, hébergement en hôtel, etc., sous contrainte d'un budget à part CCAS voté. Dans le domaine culturel, animation, bibliothèque. Dans le domaine sportif et des loisirs, les équipements, l'activité, les foyers ruraux, très important, parce qu'il y a beaucoup d'associations et de bénévolat. Pour les petites communes, l'organisation de l'utilisation des moyens est importante. Exemple, la mutualisation des équipements sportifs, parce qu'une petite commune ne peut pas payer tous les équipements qu'elle voudrait. Ensuite, c'est anecdotique, mais important dans le cas écologique, la gestion des eaux pluviales. Et la communauté d'agglomération, alors, de quoi s'occupe-t-elle ? Du développement économique, de l'aménagement de l'espace communautaire, de l'équilibre social de l'habitat, j'y reviendrai tout à l'heure parce que la politique de l'habitat est un facteur équilibrant social très important, en particulier dans l'aménagement du territoire pour respecter la mixité, l'accueil des gens qui ont des revenus modestes, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc l'équilibre social de l'habitat à travers un plan local de l'habitat qui est décidé au niveau de l'intercommunalité en accord avec toutes les communes. En direction la politique de la ville, toujours l'intercommunalité dans la communauté, délinquance, action sociale, genre du voyage, service à la personne, eau, assainissement, protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, qualité de l'air, nuisance sonore, économie d'énergie, déchets, équipements sportifs et culturels d'intérêt communautaire et action sociale d'intérêt communautaire. Cet état de fait pose alors les questions suivantes, celles que je vous pose, mais on peut s'en poser d'autres. Qu'est-ce qui reste à la commune comme service de proximité ? Alors, j'ai évoqué les services optionnels qu'elle peut décider elle-même selon ses moyens. Qu'est-ce qui implique pouvoir et service pour les élus ? Qu'est-ce qu'implique, pouvoir et service pour les élus communaux ? Comment maintenir un lien social et une animation communale ? Et avec quels moyens ? Comment gérer la dépendance avec le PCI, c'est-à-dire nous, le Sicoval, en complémentarité, et ça c'est très important. Alors quel pouvoir avons-nous quand on prend la barre du navire communal, où se situe-t-il ? Comment le découvrir dans son étendue et sa nature, surtout au premier mandat ? Je dirais même comment apprendre à s'en servir. Sur la nature du pouvoir, je dirais ceci. Il y a pouvoir-devoir, pouvoir-vouloir et pouvoir-pouvoir. C'est-à-dire pouvoir-devoir, ce qu'on doit faire. Pouvoir-vouloir, c'est la volonté qu'on y ajoute politique et aussi, personnelle. suivant ses idées, ses opinions, parfois ses idéologies, son éthique, etc. C'est-à-dire vouloir changer les choses et pouvoir, c'est-à-dire que si vous voulez faire des choses, il faut quand même en avoir les moyens. Et puis il y a aussi l'engagement électoral traduit dans le programme électoral quand on fait sa campagne électorale d'élu. Alors on peut choisir l'un ou l'autre de ces trois, mais il me semble que la notion complète de service exige les trois. C'est ce que doit conduire le citoyen à solliciter un mandat représentatif et républicain, c'est-à-dire ses motivations et son engagement à participer à la vie municipale et donc à agir, en principe, dans l'intérêt de ses concitoyens. En fait, il n'y a pas de typologie de motivation politique quand on s'engage à être élu. Certains le font par ambition, on le sait, puis je crois qu'il y en a qui vous en ont parlé ou qui vont vous en parler. D'autres par envie de service, d'autres pour vivre une expérience. Puis il y a d'autres motivations. À Hauteville, nous sommes 27 conseillers municipaux avec le maire. Bien, je crois que personne ne ressemble à personne. Chacun, d'abord suivant ses disponibilités, participe. Chacun, je dirais, trace sa vie et son expérience de vie comme il veut. Ce qui apparaît très vite quand on a décidé de prendre des responsabilités d'élu, c'est qu'il y a besoin de beaucoup de disponibilité. Et ça, c'est un problème parce que au sein de notre conseil municipal, on peut dire quand même que ceux qui travaillent le plus quotidiennement, comme par hasard, ce sont les retraités. Il y a le maire, qui est aussi un retraité, mais qui est... Alors, à Hauteville, je vais faire ses lois. À Hauteville, on a un maire qui est ancien président du Sicoval et qui est un bourreau de travail et donc qui connaît parfaitement ses dossiers. C'est une de ses grandes qualités. Donc, beaucoup de travail. Beaucoup de disponibilité, d'abord, quand on est dans son premier mandat pour découvrir les fonctionnements des services municipaux, c'est pas évident. Leurs compétences, la complexité de l'administration, et acquérir dans les domaines un peu pointus, capacité d'analyse et de décision. En particulier, moi je suis adjoint à l'urbanisme, donc l'urbanisme ça ne s'invente pas, c'est compliqué, ça évolue tous les jours. Je vois sourire Jean-Louis. En service à la personne, c'est un vaste chantier, ça demande beaucoup d'implication. J'y reviendrai tout à l'heure sur le service à la personne. Dans les travaux aussi, c'est technique, il y a les appels d'offres, etc., etc. Même si un certain nombre de compétences ne sont plus assumées par les communes, le travail reste dans les communes quand même très prenant. Parce que c'est très simple, dans une petite municipalité avec des services réduits pour des questions de moyens ou pour des questions d'organisation, eh bien les lois sont les mêmes pour Hauteville que pour la métropole de Toulouse. Mais à Hauteville, vous avez quelques personnes en administratif et puis les élus qui travaillent, et en métropole vous avez, un peu tendanciel des bataillons administratifs, en tout cas des services conséquents administratifs qui s'occupent de la res publica, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc le problème est le même, voilà. Simplement, l'échelle n'est pas la même. Bon, et puis j'avais souligné qu'il faut aussi apprendre le rapport entre les élus et les gens qui travaillent dans les mairies. C'est très important. Il faut que chacun sache quel est son domaine et se respecter. Ce qui apparaît très vite quand on a décidé de prendre des responsabilités d'élu, c'est qu'il y a besoin de, je l'ai dit, beaucoup de disponibilité. Et en première remarque, ce que je ferai, c'est celle de l'accession au pouvoir, comme prise de conscience, initiation à la responsabilité publique, qui exige de l'investissement personnel et de la découverte. Deuxièmement, le pouvoir, en tout cas communal, et même à l'Assemblée nationale des députés, il est collégial. L'élu n'est pas seul, mais fait partie d'un groupe de conseillers municipaux, en général assez hétérogène, qui va prendre des décisions d'orientation de la vie politique de la commune. Troisième facteur, le maire. C'est en général celui qui est à l'origine de la composition de la liste de la majorité élue, en général. Celui qui a pensé et formalisé le programme électoral. C'est lui qui détient le plus de pouvoir, en fait, hein, même s'il est dépendant des votes de son conseil municipal. Quatrième facteur, pour certaines communes, l'opposition. À Hauteville, il y a eu 5 mandats sans opposition. C'est le premier mandat où il y a une opposition. Vous imaginez la culture du rapport initial quand le nouveau mandat a débuté avec une opposition. Voilà. Et puis il y a aussi le caractère de l'opposition. Donc il faut composer avec ça pour, on va revenir sur le sujet, déterminer la politique de la commune et la vision qu'elle a de servir les citoyens qui ont confié avec attente et confiance le sort des 6 années suivantes en matière d'administration. Pourquoi j'évoque cette cristallisation et cette structuration de la gouvernance ? Eh bien, citoyens parce qu'elle va être à la source de la politique des services aux citoyens durant la durée du mandat. Ce qui veut dire que préalablement, il est souhaitable et sans doute nécessaire de partager entre élus une réflexion sur les valeurs et les idées qui vont orienter et motiver leur action et donc le cadre des services qui vont être prodigués. Ensuite, de trouver un consensus sur des lignes directrices. Il y a, on le comprend, la nécessité d'une adhésion collective à un projet, la nécessité de créer un environnement favorable au rendu de ces services, à leur qualité et leur adéquation par rapport aux besoins exprimés, mais aussi l'exigence d'une expression politique initiale claire, le programme électoral, à l'adresse des citoyens. C'est donc un pouvoir collectif, démocratique, mais fragile, qui a besoin d'équilibre et d'adhésion au groupe. C'est ce qui explique les conflits assez fréquents entre le pouvoir du maire, la nature de sa gouvernance et l'abandon par certains élus, au bout d'un certain temps, de leur implication dans l'action municipale, parce que c'est le maire qui décide de tout. Le rôle du maire est bien évidemment fondamental en fonction de sa personnalité, je l'ai dit tout à l'heure. En outre, l'évolution des politiques territoriales fait à ce jour que les pouvoirs délégués à la commune dans le domaine des services se sont dilués dans les intercommunalités. Ce qui s'est traduit par des transferts de compétences, on l'a évoqué, nous verrons par quelques exemples que cette évolution n'est pas anodine dans le rapport des citoyens à leur administration de proximité. En conclusion, sur le pouvoir au sein de la commune, je dirais que c'est certainement une expérience très riche de l'altérité et de l'utilisation du pouvoir pour orienter les actions vers les valeurs que l'on défend si l'équipe est homogène. Servir, oui, mais servir avec équité et bon sens, c'est-à-dire vers l'urgence des besoins, et de plus en plus. Il y a, sur l'urgence des besoins, une municipalité du Sicoval qui a construit un boulodrome qui a coûté très cher. On peut quand même penser que l'urgence du besoin n'est pas le boulodrome, mais si la commune est riche, on peut penser aussi qu'elle a pu faire plaisir à quelques boulistes. Par contre, nous pouvons nous interroger sur la question, avons-nous des obligations de moyens ou de résultats en matière de services rendus? Oui, nous avons des obligations, au moins de moyens. Y a-t-il des limites à ces services? Puisque si vous écoutez vos concitoyens, c'est souvent toujours plus ou jamais comme il faut. Donc peut-on contenter tout le monde? Si à la cantine, vous avez des gens qui réclament plusieurs menus selon leur culture, selon leurs habitudes, vegan ou pas, est-ce que, en tant que responsable et élu, vous dites oui, je réponds à la demande en fournissant ces services, mais ça coûte combien à l'ensemble de la commune? Bon, donc c'est pas nouveau. La gouvernance, c'est gouverner, c'est choisir. Comment j'évalue la nécessité et l'utilité du service face à la sollicitation et la demande? Je viens de l'évoquer. Car en contrepartie, le service a un coûte pour la collectivité, qui en a souvent le sentiment de gratuité. Et ça, c'est une culture à donner, enfin une culture, c'est une information à donner des gens. Il n'y a pas de service gratuit, hélas. En fait, la notion de politique de service est très large. Elle englobe l'institutionnel, l'engagement communal et le projet de l'élu. Chacun apporte avec lui ses valeurs, ses choix, parfois ou souvent son idéologie. Pour le dire autrement, elle fait appel aux notions de devoir, de responsabilité et d'éthique. Il y a donc pour l'élu une dimension personnelle dans l'interprétation de sa mission politique. Dans le cas de l'exercice du mandat communal, j'ai rattaché précédemment cette idée de service à la volonté de travailler à favoriser un bien-vivre ensemble. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, cela veut dire que l'élu, détenteur d'un certain pouvoir sous le regard de ses concitoyens et avec leur confiance, doit veiller et agir pour que tous les habitants de la commune aient non seulement droit et accès aux services à disposition, mais aussi apporter sa vision et son attention à la demande et aux besoins exprimés. Ceci amène la question qui nous intéresse ici. Est-il possible d'aller au-delà de l'institutionnel, de marquer une volonté politique au service des autres? Là est l'engagement d'une autre conception possible de la relation pouvoir-service. Là aussi est la source d'un engagement personnel, une valeur ajoutée au devoir institutionnel de l'élu. Alors ne soyons pas naïfs, il n'y a aucune obligation de faire plus que ce qui est dans le cadre, je dirais, de l'élu en général. Mais il y a dans l'expérience de l'élu un gisement de richesse qui peut être exploité, s'il le veut. En particulier, la satisfaction est même une forme de bonheur de répondre à l'attente de l'autre qui souvent vous témoigne de sa reconnaissance. D'être allé au-delà du standard, d'avoir apporté une valeur ajoutée, là se différencient les politiques communales, ou peuvent se différencier les politiques communales. Pour l'élu, la conscience du service rendu ou à donner, c'est le don du pouvoir que je rends à l'autre qui me l'a donné par son vote. C'est le rendu de sa confiance. Tu m'as fait confiance, ben je réponds à ton attente, car je peux le faire. Alors comment dans la réalité quotidienne et dans quel cadre je peux utiliser ce pouvoir? Alors, il y a eu une évolution des services de proximité, on l'a constaté. Je vais aller vite sur l'historique, mais l'évolution du rôle de l'intercommunalité depuis la loi Chevènement de 1999, eh bien il en résulte des interrogations sur la nécessaire mutualisation des services entre intercommunalité et communes et comment on mutualise ces services. La loi de 2010 qui a assoupli les conditions relatives à la mutualisation de services a mis en évidence la complexité de ces transferts de compétences. La mutualisation des services devenant nécessité dans le contexte de maîtrise de la dépense publique, on le sait. Alors comment ça s'est passé chez nous? Pour rappel, en 2011, il y a eu une délibération du Conseil des communautés du Sicoval sur la prise de compétences des services à la personne et le début des transferts de compétences et en particulier du Centre intercommunal d'action sociale. En 2013, la finalisation du transfert et en 2014-2015, la réorganisation du Sicoval. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la petite enfance. Il s'agit du service à la personne dans sa globalité, c'est-à-dire que ça va des petits jusqu'aux plus grands. Il s'agit de la petite enfance, de 0 à 2 ans, de l'enfance avec les animations scolaires, de la jeunesse, des jeunes adultes, des dispositifs d'accompagnement à la scolarité et des projets de réussite éducative, les personnes en perte d'autonomie, le service d'aide et d'accompagnement à domicile, le service des soins infirmiers. Et l'objectif de cette mutualisation, c'était bien entendu d'assurer ces services que les petites communes n'avaient pas et ne pouvaient pas se payer. Donc c'est louable. De favoriser la mixité et l'égalité d'accès à ces services et de regrouper les moyens et de les adapter au territoire. Constat, l'importance du chantier, il est énorme. L'ampleur du domaine des services à fournir en regard de la demande et de la attente des familles, eh bien cette mutualisation a permis de créer 4 directions de services: petite enfance, politique éducative, soutien à la dépendance, cohésion sociale. Donc nous sommes passés, en matière de services, d'une dimension communale à la dimension du territoire. Quelques chiffres pour vous donner l'ampleur de cette importance du service. Sources 2014. En petite enfance, au sein du Sicoval, 2439 enfants de 0 à 2 ans, avec 65 familles biactives, c'est-à-dire travaillant tous les deux. En enfance, en accueil de loisirs sans hébergement, 8243 enfants entre 3 et 11 ans sur le Sicoval. Pour les jeunes, près de 6000 jeunes de 12 à 17 ans, 8% de la population sur 74 000 personnes, avec une nécessité de prise en charge de l'animation et des activités dédiées. Les jeunes adultes entre 18 et 25 ans, 10% de la population, plus de 7000 jeunes, services, des points d'information jeunesse, c'est un service de proximité. Les dispositifs d'accompagnement, qu'on appelle classe, contrat local d'accompagnement à la scolarité, le projet de réussite éducative, les personnes en perte d'autonomie, 12036 personnes de 65 ans et plus, 16% de la population, 45% de plus de 75 ans, 27% de plus de 80 ans. Le service d'aide et d'accompagnement à domicile, 102319 heures d'intervention. Le service des soins infirmiers à domicile aussi. Donc tout ça assumé par l'intercommunalité maintenant. Donc on voit la problématique que ça va poser ou que ça pose, c'est-à-dire le déploiement des moyens et bien entendu le financement de ces moyens. Tous ces chiffres mettent en valeur que s'il n'y a pas une volonté politique claire de service et d'aide à la personne, ainsi que les moyens appropriés, le tissu social devient fragile parce que livré à lui-même. Ils mettent aussi en valeur la complexité de l'organisation et des moyens à mettre en place, la maîtrise de la qualité des services, en particulier pour tout ce qui est à domicile, et les moyens humains à mobiliser garantent la qualité de ces services. Question, cette évolution préserve-t-elle le facteur de proximité nécessaire à un rapport humain? Dématérialisation des contacts, turnover de personnel d'assistance, perte de repères. N'y a-t-il pas un risque d'uniformisation qui fait que certaines communes voient leur politique sociale en deçà de ce qu'elles souhaiteraient ou de ce qu'elles avaient avant? Autrement dit, la mutualisation des services est-elle garantie d'un maintien de niveau de service existant dans certaines communes? L'expérience d'Auzeville. Alors, Auzeville, on était gâtés parce qu'on avait quand même une politique claire de qualité de service en matière scolaire et en matière sociale. Bon, mais on est aussi une commune riche et on était. On l'est encore quand même sur la moyenne, vous savez qu'en matière quand même de financement, les dotations de l'État, les dotations ont baissé. Alors à Hausseville, les services qui ont été transférés au SICOVAL, c'est les crèches associatives, les ALSH vacances et mercredis, les séjours enfance, les ALSH jeunesse vacances et séjours jeunesse, le PJ Hausseville Castanet, les dispositifs classe. Alors beaucoup autour de la scolarité. C'est quand même une petite commune, donc là, les services à la personne et aux personnes âgées étaient moins aigus qu'au niveau du territoire. Avons-nous gagné ou perdu ? Les paramètres sensibles étant le nombre d'agents que l'on disposait, leur gestion, c'est-à-dire mobilité, déploiement, les tarifs pratiqués, les budgets alloués et la gestion administrative. Alors nous avons gagné sur les points où la notion de dimension de l'organisation apporte des moyens nouveaux, c'est-à-dire petite enfance, certains points sur l'enfance, portage repas, organisé. Mais nous avons beaucoup perdu sur la thématique enfance et jeunesse. Pourquoi ? Eh bien, à cause du facteur de proximité. Nous y revenons. Parce que la taille de la commune, évidemment, joue sur le facteur de proximité. Le rapport humain avec la mairie n'est pas le même qu'avec une administration plus distante du SICOVAL, sans faire de procès, bien entendu, et d'une volonté de la part des élus de favoriser budgétairement et qualitativement le périmètre des services qui touchent au périscolaire en particulier, à l'éducation et aux loisirs des enfants, et ceci dans un souci d'accès pour tous à ces services au moyen d'une politique de tarifs adaptée. Le tarif, c'est très important parce que on s'aperçoit que même dans les certaines communes, on s'aperçoit qu'elles peuvent couvrir les personnes en difficulté et avoir une grille de tarifs adaptée au pouvoir d'achat des gens, mais dans d'autres communes, on voit quand même qu'il y a beaucoup de galères. Être élu, c'est aussi être devant la réalité des choses, c'est-à-dire de voir que le dessus du panier, c'est bien, mais que dessous, il y a quand même pas mal de monde. Je souris, mais c'est pas rigolo du tout, d'ailleurs. C'est aussi ça, cette prise de réalité. Faut-il pour autant regretter ou dénigrer la volonté de l'intercommunalité d'avoir fait ce transfert de compétences, de services à la personne? Objectivement, non, puisque cela a été fait pour que toutes les communes du territoire du SICOVAL puissent avoir accès aux mêmes services. Mais c'est vrai que dans la période de mise en place de cette mutualisation, les communes qui avaient fait le choix de favoriser certains domaines de services ont perdu en qualité et en périmètre de prestations. Cet exemple, pour revenir à notre sujet, oui, la nature de l'exercice du pouvoir dans nos structures démocratiques influe très sensiblement sur la notion de service à rendre aux populations. Alors, je vais passer rapidement sur l'exemple de l'urbanisme. Eh bien, que pour le moment, chaque commune a vocation de participer à l'accueil et à l'hébergement de nouveaux habitants désireux de résider sur le territoire. Elle doit donc décider comment elle va organiser son habitat, le développer dans le temps et dans l'espace. Chaque année, l'agglomération de Toulouse accueille 19 000 habitants. On a une tendance sur 20 000. Eh bien, chaque commune du territoire a un engagement d'accueil, qui est d'ailleurs régularisé et planifié par ce qu'on appelle le PLH, le plan local de l'habitat, mais aussi la gestion sociale de cet accueil dans le respect d'une forme de mixité et d'équilibre de représentativité des populations. Logements sociaux, logements à prix abordable, souci pour d'accueillir des jeunes ménages qui cherchent à être propriétaires, parce que l'accès à la propriété est de plus en plus problématique compte tenu des prix du foncier et du logement. Il y a aussi le phénomène monoparental qui a eu des incidences très, très lourdes sur l'urbanisme, et je citerai pour finir quelques chiffres là-dessus. Il y a de plus en plus de familles monoparentales, et donc chaque fois qu'une famille se divise, eh bien, ça ne fait plus un logement, mais ça en fait deux. Il y a le phénomène de recomposition familiale aussi qui a un impact important. Alors, il n'est pas simple d'organiser l'accueil des familles, parce que sur son territoire, et en particulier celui d'Hausseville, mais je sais que sur d'autres, parce que les gens qui y sont et qui habitent y sont bien, ils ne veulent pas de densité, et donc ils ne veulent pas de voisins à proximité. Alors ça, c'est culturellement très dur à expliquer et à vivre. J'y reviendrai si j'ai le temps ou avec les questions. Mais comme je suis adjoint à l'urbanisme, je connais bien la question. Je la vis. En matière d'urbanisme, donc, je vais faire un peu court, mais le problème du service est très sensible. Par exemple, parce que c'est pas évident au sein de la commune, est-ce que je respecte les 25% de logements sociaux qui me sont impartis par la loi ? Et vous avez des communes qui ne le respectent pas délibérément, je ne les citerai pas. Heureusement, l'État y veille et donc ils sont lourdement sanctionnés financièrement. Mais il y a des communes qui refusent leur quota de 25% de logements sociaux. Est-ce que j'accepte aussi les logements aidés, c'est-à-dire à prix abordable pour favoriser l'accueil des jeunes ménages? Est-ce que je suis vigilant sur la spéculation foncière, sur les prix d'accession à la propriété? Est-ce que je favorise les projets de logements participatifs, c'est-à-dire les actions du vivre en commun dans des cadres voulus? Est-ce que je prévois des logements d'urgence? Parce que même à Hausseville, eh bien, il y a des personnes qui débarquent un jour, un soir, et qui sont dans une situation familiale grave ou qui se sont fait mettre à la porte, etc., etc. Le problème des logements d'urgence, alors ça coûte cher hein, pour les communes, bien entendu, parce qu'il faut les acheter. Mais moi, je pense en tant qu'élu que c'est une nécessité d'avoir au moins dans chaque commune, quand on peut, un logement d'urgence. Sinon, à Hausseville, on les met à l'hôtel. Est-ce qu'en matière de locatif, je privilégie des tailles de logements, T2, T3, T4, en fonction de la demande réelle? Parce que chez les promoteurs, on construit en fonction de ce qui se vend le mieux. Donc, en tant qu'élu, si vous ne vous battez pas dans le bon sens du terme et positivement avec les promoteurs, ils construisent ce qu'ils veulent. Alors, c'est pas que des méchants, mais enfin, bon, il faut être ferme avec le milieu de la construction. Tous ces choix vont orienter l'avenir démographique de la commune, son style de vie, etc., etc. Je veux dire quelques mots sur la participation citoyenne et la concertation, le rôle des associations et de l'animation communale. Dans ce contexte de regroupement des activités ou des services dans le giron intercommunal ou métropolitain, nous sentons bien la nécessité de préserver au sein de nos communes une cohésion communautaire, une vie en commun, dans laquelle le sentiment d'appartenance à une commune soit facteur de bien-être dans son environnement. C'est très important. Pour que cette vie sociale perdure, il faut, vous l'avez compris, un facteur qui garantisse une cohésion dans la vie quotidienne de la cité, dans son administration, dans son animation, dans l'échange et le partage des ressources de la commune. Deux facteurs sont au fondement de cette cohésion. La gouvernance en place, mais aussi la participation des citoyens au bien-vivre de leur commune. Car il ne peut pas y avoir de lien social et de solidarité sans le tissu associatif et le bénévolat qui apporte une énorme et indispensable contribution à la qualité de l'animation et de l'entraide au sein de la commune. Quand on est une petite commune, on ne peut pas tout payer. S'il n'y a pas une volonté d'avoir des espaces d'échange, de loisirs, de plaisir, de partage, de bons moments, la commune ne peut pas tout organiser et n'a pas les moyens de tout organiser. Donc effectivement, on peut le penser qu'au niveau des petites communes, eh bien, c'est plus facile à mobiliser les gens que sur les grosses. Parce que le repli sur soi-même, la vie à côté de l'autre, n'est pas la même. On se connaît, Hausseville, c'est un petit village. Enfin, c'était, tout le monde se connaît, il y a encore une histoire, il y a encore des paysans qui y habitent, enfin des anciens agriculteurs qui y habitent, donc qui savent raconter l'histoire de la commune. Donc il faut des éléments fédérateurs. Tout simplement, je dis ça parce que la plupart des communes n'ont plus les moyens de couvrir matériellement et financièrement certains besoins exprimés par les habitants, et en particulier les loisirs partagés, les sports, culture, détente. Bon, les sports, ça demande beaucoup d'équipements, et les gens demandent de plus en plus de sports, les gens demandent de plus en plus de cours d'espagnol, d'anglais, les gens demandent des cours de bridge, et les gens demandent des cours de yoga, etc., etc. À Hausseville, je crois qu'il y a quelque chose comme 40 activités, enfin bon, mais les gens on a un foyer rural qui s'occupe aussi bien de ça, mais les gens mettent la main à la pâte, et tant mieux, ça se passe encore bien. Puis on a mutualisé aussi les équipements sportifs avec l'agrobiopole. Donc les élus ont un devoir d'organiser, de favoriser, d'aider, de veiller à la vie associative. C'est important. Et j'évoque aussi l'importance au niveau de la commune de garder un CCAS pour les urgences. Parce que même à Hausseville, il y a des gens qui sont en situation difficile. Alors demain et après, nous voyons que le binôme pouvoir-service est en mutation, qu'il y a présomption de délitement du concept de service dans l'exercice des responsabilités publiques, non par principe de valeur, mais par vision technocratique. La question qui demeure, et qui demeurera toujours dans une communauté de vie, quelle qu'elle soit, communale, régionale ou nationale, c'est celle-là. Vers qui se tourner quand on en a besoin? Qui peut m'aider? Nous sommes devant des défis sociétaux d'évolution auxquels nous devons répondre rapidement et de plus en plus vite, parce que ça évolue de plus en plus vite. Et je vais vous donner deux exemples avant de finir. Les familles monoparentales mentale, qui depuis les années 1970 ne cesse d'augmenter et représentait en 2012 près de 2,6 millions de ménages en France. Situation vulnérable économiquement sur le plan de l'emploi et surtout pour l'accès au logement. Sur l'aire urbaine de Toulouse, il y avait en 2012 50 000 familles monoparentales qui représentaient 129 481 personnes. Une famille avec enfant sur trois était monoparentale. Donc on peut imaginer que ça ne s'est pas amélioré. 76 374 enfants étaient dans une famille monoparentale. C'est ma dernière feuille. 22,5% des enfants vivant en famille monoparentale. 36 289 familles étaient allocataires de la CAF. Le nombre progresse chaque année. Et chez les jeunes, en 2014, il y avait 283 862 jeunes de 15 à 29 ans dans l'aire toulousaine. 50% sont des femmes, 15% vivent chez leurs parents, 43% ont un emploi, 46 000 de 15 à 29 ans non scolarisés sont chômeurs et non insérés. 3 700 vivent seuls avec un ou plusieurs enfants, 93% de femmes. 22% de jeunes ont des revenus sous le seuil de pauvreté. J'arrête là et je vais conclure. À la lumière de ce que je viens d'évoquer, en considérant les évolutions récentes des organisations territoriales, en corrélation avec le désengagement de l'État, un certain désengagement de l'État, je crois qu'il est intéressant, sinon important, d'essayer d'avoir une vision claire sur la question du comment nous voulons vivre demain, dans quel environnement et dans quel rapport à l'autre. C'est non seulement une question d'un équilibre qualitatif de vie quotidienne, mais aussi de santé physique et mentale. Il y a donc à trouver, à établir, puis préserver un équilibre des pouvoirs de décider et de faire entre les structures qui mutualisent ou centralisent et les bassins de vie de proximité que sont les communes. Sachant que l'appartenance à un lieu de vie, qu'il soit choisi ou non, conserve un aspect identitaire, dans le bon sens du mot. Je veux dire que là où j'habite, ce lieu, je le fais mien. Pour chacun d'entre nous, habiter, c'est un morceau, c'est aussi le temps, c'est aussi dans le temps une expérience humaine avec les autres. Éloigner l'expression et la représentativité de la tutelle de l'État, garant des valeurs fondatrices de notre nation, renforce le sentiment d'abandon et le repli sur soi. C'est le phénomène que l'on peut voir dans les villages de campagne où il n'y a plus de services publics et dans certaines banlieues. L'évolution des technologies, et en particulier la numérisation des services, participe hélas à cette perte du contact humain et à l'angoisse de la barrière technologique des accès aux services les plus élémentaires. Bref, à la menace d'une fracture sociale qu'il vaut mieux éviter tant qu'il en est de notre pouvoir. Faut-il inventer des nouveaux services d'assistance à l'utilisation de l'appareil informatique ? Faut-il inventer des nouveaux services d'assistance dans le dysfonctionnement de l'administration ? C'est un problème que les élus, je pense, doivent se poser. Les cartes grises, le passeport, plus personne en face. La commune, dans ce qui lui reste de marge, de manœuvre politique et de moyens, doit faire tout ce qui lui est possible pour rester le garant de notre humanité de vie quotidienne. Alors, en conclusion, je la dédie à tous les élus et je la laisse à Emmanuel Lévinas, que j'aime bien mais qui est pas facile à lire. Dès que le visage de l'autre apparaît, il m'oblige.